Je suis donc célibataire. Est-ce que je dois me marier à tout prix ou est-ce que je dois rester célibataire? Moi, je suis marié. Est-ce que je dois renoncer à mes relations conjugales? Quant à moi, je suis veuf. Est-ce que je peux me remarier? Si oui, avec qui? Avec une personne chrétienne ou avec une personne non chrétienne? Moi, pour ma part, je suis marié avec une personne non chrétienne. En fait, les circonstances de la vie ont fait que je suis devenu chrétien après mon mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me séparer de cette personne? Alors, comme vous l'aurez peut-être compris, voilà un échantillon des questions que les chrétiens de Corinthe ont posées à l'apôtre Paul dans une lettre qu'ils lui ont adressée et que l'on pourrait résumer ainsi finalement. Quelles sont les implications de la conversion à la foi chrétienne dans la vie conjugale? Autrement dit, la mort, la résurrection et le retour de Jésus, qu'est-ce que ça change vraiment finalement? Dans ma vie, dans mon mariage et dans mon célibat, quelles sont les implications de la conversion au christianisme dans ma vie, dans mon célibat, je suis célibataire, dans mon mariage, si je suis marié? Alors vous avez peut-être entendu dire que les Corinthiens ont une mauvaise réputation, n'est-ce pas? En fait, l'un de leurs problèmes, c'est qu'ils ont une mauvaise conception du corps, je crois, une conception notamment influencée par la pensée grecque de l'époque qui valorise l'âme au détriment de la matière et qui valorise l'esprit au détriment du corps. Pour eux, l'âme est prisonnière quelque part du corps et ils attendent le jour où leur âme sera délivrée de ce corps. Du coup, certains aspirent à une relation purement spirituelle avec Dieu dans laquelle le corps n'a plus vraiment d'importance et certains même boycottent toute relation physique avant le mariage. C'est un peu comme s'ils disaient nous sommes sauvés en esprit seulement. On est un peu comme les anges dans le ciel. Plus besoin de se marier. L'abstinence et le célibat font de nous des chrétiens TTS. TTS, vous savez tout ce que ça veut dire, hein? Très très spirituel. Et d'autres, au contraire, estiment que le corps n'a pas vraiment d'importance et que tout est permis dans la vie chrétienne. Par exemple, au verset 5, l'inceste. Qu'importe ce que je fais avec mon corps. Par exemple, dans la première partie du verset du chapitre 6, les procès entre frères, peu importe la façon dont je traite le corps de Christ, qu'est l'Église. Ou dans la deuxième partie du verset 6, la fréquentation des prostituées, peu importe ce que je fais avec mon corps, je peux me permettre de fréquenter des prostituées, le corps n'a pas vraiment d'importance, c'est sale, donc on s'en fiche finalement de ce que je fais avec mon corps. Bref, comme vous l'avez compris, il y a un vrai problème à Corinthe. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul va essayer de rectifier le tir en donnant quelques éléments de réponse, je vous en livre quatre. Le premier élément de réponse qu'il donne, il me semble, hein, c'est ceci. Votre corps a été racheté à grand prix. Et c'est ce qu'il dit au verset 23 hein, du chapitre 7, les deux versets qui précèdent le passage auquel nous allons nous intéresser. Regardez le verset 23. Vous avez été racheté à un grand prix. Et c'est ce qu'il dit quelque part. Votre corps et votre âme, bien sûr, a été racheté à un grand prix. Et ce prix, quel est-il? En fait, c'est le prix de la mort et de la résurrection de Jésus. En fait. Jésus est mort et ressuscité pour vous sauver corps et âme. Autrement dit, votre corps a de la valeur. Et qu'est-ce que Paul va dire à propos du corps, notamment au chapitre 3 et au chapitre 6? C'est que c'est le temple du Saint-Esprit. Votre corps a de la valeur. C'est le temple du Saint-Esprit. Il participe à la rédemption au même titre que l'âme. Ne faites donc pas un mauvais usage de ce corps qui a été racheté à grand prix. Deuxième élément de réponse au problème des Corinthiens. Regardez le chapitre 7 et le verset 7. Je pense que Paul est en train de dire que le mariage, comme le célibat, est une bonne chose. Autrement dit, l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est plus spirituel que quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il s'agit, comme le dit le texte, d'un don de Dieu. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Troisième élément de réponse au problème des Corinthiens, regardez le verset 2 de ce même chapitre 7. Paul semble dire que le mariage constitue une solution à l'immoralité sexuelle, à ce que nous avons vu notamment avec Jonas samedi matin. c'est-à-dire à la sexualité hors du cadre du mariage. Et je pense que c'est précisément le danger qui guette les Corinthiens, regardez le verset 2, hein, à cause des occasions d'inconduite que chacun est sa femme, et que chaque femme est son mari. Le mariage semble être une solution que Paul propose pour remédier à l'immoralité sexuelle. D'accord ? Quatrième et dernier élément de réponse au problème posé par les Corinthiens, c'est que le célibat en fait n'a pas que des inconvénients. Il a aussi des avantages, et c'est ce que j'aimerais voir à la lumière donc 1 Corinthiens chapitre 7, des versets 25 à 35, des versets dans lesquels je pense que Paul s'adresse aux chrétiens en général, mais plus particulièrement, regardez au verset 23, au verset 25, pardon, Paul s'adresse, dans ma version, à ceux qui sont vierges, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas mariés. Et je pense que nous sommes un certain nombre à ne pas être mariés, encore ce matin. À ceux qui se posent des questions sur le mariage, et qui se demandent ce qu'ils doivent faire. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Vous demandez ce que vous devez faire. Est-ce que je dois me marier, ou est-ce que je dois rester célibataire? Et voilà ce que Paul répond. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire? Paul n'est plus là pour lire, mais... 1 Corinthiens chapitre 7, versets 25 à 35. Merci Denis. Force, s'il te plaît, pour l'enregistrement.
Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction.
Merci beaucoup. Dans ces versets, je paraphrase, mais il me semble que Paul est en train de dire ceci aux Corinthiens, les petits loups. Ne vous mariez pas à tout prix. D'ailleurs, Marie à tout prix, il me semble que c'est le titre d'un film, non ? C'est un peu comme si dans ces versets, Paul disait, Corinthiens, les petits loups, ne vous mariez pas à tout prix, mais trois choses qui correspondent au plan que je vous propose. Premièrement, restez comme vous êtes. Des versets 25 à 28. Ne vous mariez pas à tout prix, Corinthiens, mais premièrement, des versets 25 à 28, restez comme vous êtes. Autrement dit, si vous êtes marié, restez marié. Si vous êtes célibataire, restez célibataire. Il ne s'agit pas d'un ordre. Regardez encore le verset 25 avec moi. Paul n'a pas reçu de directive précise du Seigneur. Pour ce qui est des vierges, dit-il, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur. Mais Paul a reçu de la part de Dieu la grâce d'être digne de confiance quand même. C'est un conseil de sagesse. Regardez encore le fin du verset 25. Mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Il ne s'agit pas d'un ordre absolu, doctrinal, dogmatique, mais simplement d'un conseil que Paul est en train de donner. Les Corinthiens sont donc tout à fait libres de se marier ou de rester célibataires. Mais il n'en demeure pas moins que Paul, dans ses versets, semble leur conseiller, en fait, de rester comme ils sont. Et la question, c'est pourquoi ? Mais je crois que la réponse se trouve dans la suite du passage. Regardez. À cause des temps actuels de détresse, ma version, la Colombe dit, à cause des calamités présentes. À quoi Paul fait-il allusion? C'est très difficile à dire, plusieurs possibilités. Une crise économique, comme celle que nous avons connue en 2008, et que nous continuons à connaître en 2012. Paul peut aussi faire référence à des persécutions. Imaginez un chrétien persécuté dans les camps de concentration ou des camps de travail en Corée du Nord, par exemple. Imaginez un chrétien qui a repéré cette très belle Coréenne du Nord, chrétienne, et qui tombe fou amoureux d'elle. Alors que l'Église en Corée du Nord est persécutée, et notamment envoyée dans des camps de travaux. C'est un peu comme si ce jeune Coréen voulait à tout prix se marier avec cette belle Coréenne. Dans l'absolu, il n'y a rien de mal à cela. Mais comment dire, serait-il sage pour eux de se marier dans cette période de persécution ? Rien ne les empêche de se marier, mais la question qui se pose, serait-il sage de se marier à ce moment-là de leur vie, où l'Église est persécutée, où les chrétiens sont dans des camps de travail ? C'est pas évident. C'est un peu ce que Paul est en train de dire. Ou alors, il se peut que Paul fasse tout simplement référence aux difficultés inhérentes du monde dans lequel nous vivons, un monde déchu, et notamment frappé de péché. Mais en fait, quelle que soit la nature de ces calamités présentes, quelle que soit la nature de ces temps actuels de détresse, Paul semble estimer qu'il y a parfois des circonstances, des temps de crise, pendant lesquels il est préférable, vous voyez, de ne pas se marier. En tout cas, de ne pas chercher à se marier à tout prix, mais simplement à rester comme on est, et à vivre pour le monde à venir. Et c'est mon second point, des versets 29 à 31. Corinthiens, les petits loups, ne vous mariez pas à tout prix, mais restez comme vous êtes, premièrement. Et deuxièmement, des versets 29 à 31, vivez pour le monde à venir. Vivez pour le monde à venir. Ce sont des versets difficiles. J'ai demandé au prédicateur de mon mariage de prêcher sur ce passage, en fait. Et tout le monde était très, très surpris, notamment à cause du verset 29. Voici ce que je vous dis, frère, le temps est court, désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. D'ailleurs, c'est très, très surprenant, n'est-ce pas ? Et pas facile à comprendre, mais je pense ce verset prend tout son sens dans le cadre du contexte, car vous savez que tout texte hors de son contexte est un
prétexte.
Merci, Tédoué. Regardez bien les deux versets qui encadrent cette section, des versets 29 à 31. Je pense que ces deux versets vont nous aider à comprendre la suite du passage plutôt surprenante. Verset 29, qu'est-ce que Paul dit ? Voici ce que je dis, frère, le temps est court. Et là, il est important de comprendre que le temps auquel Paul fait référence n'est pas le temps, chronologique, mais le temps un petit peu en tant que moment fixé par Dieu dans l'histoire. En grec, il y a une distinction entre le temps chronos, qui a donné chronomètre, chronologique, chronophage, et le mot kairos, K-A-I-R-O-S. Et c'est ce mot que Paul utilise là pour faire référence à un moment fixé par Dieu dans l'histoire. Et là, la question que vous vous posez peut-être, c'est à quel moment Paul fait-il référence ? Et je pense que la réponse est au verset 31. Regardez le verset 31 qui conclut cette section. Et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas réellement, car la figure de ce monde passe. À quel moment Paul peut-il bien faire référence dans ces versets ? Il me semble que Paul fait référence au moment de la fin. Au moment que Dieu a fixé pour mettre un terme au monde présent. En langage plus prosaïque, à la fin du monde, qui, comme tout le monde sait, aura lieu le 21 décembre 2012. Selon le calendrier Maya, et un film du même nom, sorti au cinéma il y a quelques années. En fait, c'est pas vrai. Mais quelle que soit l'année de la fin du monde, la Bible nous apprend, et vous le savez, je ne vous apprends rien qu'un jour, Jésus reviendra, n'est-ce pas, pour mettre un terme au monde actuel, au monde présent, et pour inaugurer un monde nouveau, ce que la Bible appelle une nouvelle création. Et il me semble que c'est à la lumière de ce monde à venir, de cette nouvelle création qui sera inaugurée par le retour de Jésus, que ces versets sont à comprendre et que Paul analyse le présent et notamment le mariage, puisque nous parlons de mariage. Regardez encore le verset 29, très surprenant, que ceux qui ont une femme, je suis concerné, soient comme s'ils n'en avaient pas. Mais c'est bizarre, pourquoi Paul dit ça ? Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Comment comprendre ce verset ? Alors le mariage a ses avantages, je suis le premier à le dire, et doit être honoré. Et d'ailleurs, Paul le préconise, vous vous rappelez, chapitre 7, verset 2, pour remédier notamment à l'immoralité sexuelle, le mariage est bon. C'est partie des choses que Dieu a instituées. Mais Paul semble, comment dire, je ne sais pas si le terme est approprié, mais relativiser l'importance du mariage dans ces versets. Pourquoi ? Mais justement parce que le temps est court, et parce que le monde passe. Le mariage est une institution importante, mais c'est une institution temporaire qui ne durera pas éternellement. Dans le monde à venir, qui sera inauguré par le retour de Jésus, les hommes et les femmes ne se marieront plus entre eux. Et là, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu, chapitre 22, verset 30. D'où cette application pour nous aujourd'hui et pour moi en tant qu'homme marié. Et si vous êtes marié comme moi, sentez-vous libre de vous sentir concerné. Le mariage est d'une importance capitale en tant qu'institution de Dieu. Il s'agit donc vraiment de l'honorer hein, de manière responsable et je me parle à moi-même. Il s'agit de profiter de ses joies parce que le mariage procure beaucoup de joie. Mais il s'agit également, à la lumière de ce passage, de ne pas vivre exclusivement pour notre mariage. Pourquoi ? Parce qu'il ne durera pas éternellement. Et si vous n'êtes pas marié, comme certains d'entre vous, à moins que bon, il soit passé des choses, mais bon, si vous n'êtes pas marié, eh bien, les petits loups, ne vous mariez pas à tout prix. Ne vivons pas exclusivement dans le but de nous marier, n'en faisons pas le but de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Parce que le temps est court et parce que le monde passe, parce qu'il y a le retour de Jésus en fait. Et le monde à venir, à la lumière duquel Paul nous invite à vivre en tant que chrétien. Et il en est de même, nous n'allons pas nous attarder dessus, mais il en est de même pour les joies de ce monde. Regardez le verset 30. Pour les peines de ce monde, pour les possessions de ce monde. Que Paul ne sous-estime pas, et Paul ne sous-estime pas l'importance des peines de ce monde. Des joies de ce monde, des possessions de ce monde, mais je pense qu'il est en train de relativiser toutes ces choses. Parce que le temps est court et que le monde passe. Toutes ces choses, les joies, les peines, aussi dramatiques soient-elles, sont temporaires. De même que les possessions un jour, il nous faudra tous quitter le navire de ce monde. En laissant derrière nous nos iPods, nos smartphones, nos ordinateurs, nos Macs, nos PC, comme quelqu'un l'a dit, nous n'emporterons rien dans notre tombe, strictement rien. Cela ne veut pas dire que ces choses n'ont pas d'importance, mais elles sont temporaires, elles ne dureront pas. Bref, voilà ce que dit Paul en substance. Ne vous mariez pas à tout prix, mais premièrement, restez comme vous êtes, à cause des temps actuels de détresse. Deuxièmement, vivez non pas pour le monde présent, éphémère, mais pour le monde éternel à venir, qui sera inauguré par le retour de Jésus. Et troisièmement, et dernièrement, ne vous mariez pas à tout prix, mais inquiétez-vous des choses du Seigneur. Inquiétez-vous des choses du Seigneur. Regardez les versets 32 à 35 pour finir. Des versets particulièrement difficiles, hein, sur lesquels j'ai beaucoup lutté et que Alex m'a vraiment aidé à comprendre, je pense. Parce qu'on a vraiment bien échangé sur ce sujet et je pense qu'Alex m'a vraiment aidé à comprendre ce passage. Il me semble que dans ces versets, ce n'est pas tant Paul le théologien, mais Paul le pasteur qui parle. Paul est beaucoup plus pastoral que doctrinal dans ces versets. Il est beaucoup plus pratique que dogmatique. Il prend vraiment la situation des Corinthiens à cœur. Regardez le verset 32. « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » On le sent vraiment impliqué dans la vie des Corinthiens. Puis regardez le verset 35 encore. « Je dis cela dans votre intérêt. » Aujourd'hui, on dirait peut-être, je dis cela, mais c'est pour votre bien que je dis cela. Et qu'est-ce que dit Paul, justement, dans ces versets ? Pas facile à comprendre, hein, qu'on peut peut-être relire. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé, de même la femme sans mari comme la vierge se soucie des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Qu'est-ce que Paul dit dans ce verset ? Eh bien, je vous propose de commencer par essayer de comprendre ce que Paul ne dit pas. Ça peut peut-être nous aider à comprendre ce qu'il dit. Je veux rester prudent. Paul n'est pas du tout en train de dire qu'un couple marié ne peut pas s'inquiéter des choses du Seigneur. Pas du tout. Vous avez remarqué qu'il n'oppose pas d'un côté le mariage et de l'autre les affaires du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il oppose dans ce verset ? S'il y a une opposition, c'est celle entre d'un côté les affaires du Seigneur, non ? Et de l'autre côté, les affaires ou les choses du monde. Donc l'opposition est là. Alors qu'est-ce que Paul dit ? Il pourrait dire, à mon homme la vie, je me trompe peut-être, mais en tout cas, mon expérience témoigne qu'il y a une certaine part de réalité dans ce que je suis en train de dire, c'est que le mariage et là je vais peut-être vous éclairer, hein, mais que le mariage apporte inévitablement son lot de préoccupations. Le mariage procure beaucoup de bonheur, et je suis le premier à en témoigner. Le mariage procure beaucoup de bonheur, mais le mariage prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Quand on est marié, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, quand on veut, avec ses cheveux. Non, ça c'est une pub. On ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, et quand on veut, quand on est marié. Par exemple, je ne peux pas regarder un match de foot dans son intégralité. C'est très difficile, je n'ai pas regardé un match de foot dans son intégralité depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que Mike parfois a besoin de se coucher tôt, et on va se coucher ensemble. On ne fait pas tout ce qu'on veut, quand on veut. J'aimais bien faire du foot avant, aujourd'hui c'est très difficile, parce qu'il faut que je me déplace, et que je laisse Meg toute seule, et je n'ai pas envie parfois de la laisser toute seule le samedi matin. Vous voyez ce que je veux dire? Le mariage apporte inévitablement, enfin, procure beaucoup de bonheur, mais apporte inévitablement son lot de préoccupations et prend beaucoup de temps. On ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, quand on veut, surtout quand on a des enfants. Le mariage implique vraiment des responsabilités, des obligations, des contraintes, parfois même des soucis, des préoccupations qui viennent s'ajouter aux difficultés de la vie. Et qui entraîne, mais inévitablement, c'est ce que Paul dit, hein, ce n'est pas moi, un tiraillement très difficilement évitable. Vous voyez, hein, un cœur partagé entre d'un côté le désir de plaire à Dieu, et de l'autre, le désir de plaire à son mari ou à sa femme. En fait, la personne mariée a une sorte de double responsabilité dont la personne célibataire est déchargée, la responsabilité de plaire au Seigneur, et en même temps, la responsabilité, hein, de plaire à son mari ou à sa femme. Et ça ne veut pas du tout dire que le désir de plaire à son mari ou à sa femme est une mauvaise chose en soi. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça fait partie de nos devoirs, de nos responsabilités devant Dieu. Mais Paul semble dire dans ses versets, hein, à mon humble avis, que la nature et la réalité du mariage impliquent, mais presque de manière inévitable, un tiraillement. C'est ce qu'il dit, il dit, et il est partagé au verset 34. Il parle aussi de tiraillement au verset 35. Il semble dire que le mariage implique un tiraillement qui peut insidieusement, en fait, nous détourner de notre priorité, qui consiste en tant que chrétien à s'inquiéter des choses de Dieu, du Seigneur, à être pleinement attaché à lui, sans partage. Pas facile, hein. Pour résumer, le conseil de Paul pourrait donc être le suivant. Corinthiens, les petits loups, je sais que vous voulez vous marier à tout prix, mais ne vous mariez pas à tout prix. La vie est assez compliquée comme ça. Les temps actuels de détresse, verset 26, la proximité du monde à venir, hein, verset 29 à 31, et les préoccupations mais inhérentes à la vie conjugale, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont inévitables, sont de bonnes raisons pour ne pas vous marier à tout prix. Mais peut-être, pour rester célibataire, pour un temps, peut-être, si vous en avez la possibilité. Verset 35, Paul dit, je dis cela dans votre intérêt, c'est pour votre bien. Alors je suis conscient, hein, que je m'adresse à des célibataires et que le célibat n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Je suis resté 31 ans célibataire, et je suis le premier à dire que le célibat n'est pas toujours facile à vivre pour plusieurs raisons. Mais le célibat nous permet également de faire des choses que le mariage ne nous permet pas toujours de faire, et je m'en suis rendu compte en tant qu'homme marié. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous savez combien il y a de célibataires en France en 2012, selon l'INSEE? Une idée? 18 millions. Bon, c'était la moitié. Si vous êtes célibataire, si vous faites partie de ces 18 millions de célibataires, et si vous envisagez de vous marier, une noble ambition, hein, est-ce que je peux me permettre de vous encourager à vraiment prendre le temps d'examiner les motivations de votre cœur, par exemple, et de réfléchir aux implications sérieuses, hein, du mariage, et en attendant, en réfléchissant, pourquoi ne pas profiter, mais à max, à 100%, de votre célibat pour faire des choses pour le Seigneur, que vous ne pourrez peut-être plus faire un jour, quand vous serez marié, et quand vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou plus d'enfants. Profitez-en pour vous inquiéter des choses, des affaires du Seigneur, pour vous servir de tout votre cœur, pour passer du temps avec vos amis non-chrétiens. Quelque chose que je n'ai pas réussi à faire depuis une éternité, j'en parlais à Gilles, je crois, hier. lorsque j'étais célibataire, j'ai pu passer quasiment tout mon temps libre avec mes amis non-chrétiens, mes collègues de travail. Aujourd'hui, le temps passé avec mes amis non-chrétiens, les jours que j'ai passé avec mes amis non-chrétiens, je peux les compter peut-être sur les doigts d'une main. Si j'ai pas fait la semaine nouveau départ la semaine dernière, c'est très difficile. Je fréquente beaucoup de chrétiens, c'est très encourageant. Mais je n'ai plus beaucoup d'occasions de passer du temps avec mes amis non-chrétiens. Et si vous êtes marié, et là je m'adresse à moi-même, hein, soyons vigilants. Soyons vigilants. Il est tellement facile de se laisser absorber, et je parle pour moi, hein, tellement facile de se laisser absorber, submerger par les préoccupations, par les inquiétudes de ce monde. Et tellement facile de se laisser distraire de notre priorité, n'est-ce pas? Qui consiste à se préoccuper des affaires du Seigneur, comme le dit Paul, hein, et être attaché à lui, sans partage. Alors pour conclure, finalement je vous pose, et je me pose aussi cette question beaucoup plus globale, je crois, hein. Finalement, quelle est notre priorité dans la vie? Quelle est notre priorité? Quelle est notre relation à l'œuvre de Jésus, à sa mort, à sa résurrection et à son retour? Qu'est-ce que la mort de Jésus, sa résurrection corporelle d'entre les morts et son retour implique dans notre vie, dans notre mariage, dans notre célibat? Qu'est-ce que ça change très concrètement? Il me semble que, quelle que soit notre situation de famille, hein, tous ces événements de l'histoire du salut nous rappelle qu'il y a plus que le mariage dans la vie, qu'il y a plus que le mariage, et qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre, non pas pour les réalités temporaires, éphémères de ce monde, mais pour les réalités éternelles à venir. Non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a aimés, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui revient bientôt, et auquel nous serons un jour mariés, Jésus étant notre époux, et l'Église étant son épouse, un jour nous serons mariés à Jésus. Et je pense que la Bible insiste beaucoup sur l'importance de se préparer pour ce mariage. Tellement plus important qu'un mariage terrestre. Pour finir, témoignage de John Stott, que vous connaissez, qui mourra 90 ans. Avec John Stott, nous sommes nés le même jour, le 27 avril, mais pas la même année. Je vous rassure tout de suite. John Stott, pasteur, théologien, qui a été interviewé à la fin d'un livre intitulé « Hors normes », traduit de l'anglais par Al Shue, qui s'appelle, il me semble, « The Single Issue ». Voilà ce que dit John Stott à la question « Mais qu'est-ce qui vous a amené à être célibataire ?» Son témoignage est très intéressant, et je vous le livre. Hein. « Je n'ai jamais fait de vœux solennels. Je n'ai jamais pris la décision héroïque de rester célibataire. Au contraire, quand j'avais entre 20 et 30 ans, comme la plupart des gens, je m'attendais à me marier un jour. En fait, à cette époque, à deux reprises, j'ai commencé à développer une relation avec une jeune fille qui, pensais-je, pouvait correspondre au choix de Dieu pour ma vie. Mais quand vint le temps de prendre une décision, la meilleure explication que je peux donner, c'est qu'il me manquait l'assurance que Dieu voulait que j'aille de l'avant. Je me suis donc retiré. Et comme cela m'est arrivé deux fois, j'ai naturellement commencé à croire que Dieu voulait que je reste célibataire. J'ai aujourd'hui 76 ans, enfin, John Stott est mort aujourd'hui, je suis bien portant et vraiment disponible. Un peu d'humour. Avec le recul, je pense que je sais pourquoi. Je n'aurais jamais pu voyager et écrire aussi intensément que je l'ai fait si j'avais été responsable d'une famille et d'une femme.